et que ce soit vrai. Nous avons commencé ensemble de parcourir la première épître aux Corinthiens et il se trouve que cette épître contient un des passages les plus explicites du Nouveau Testament sur la résurrection. Et aussi, on va saisir l'occasion du jour de Pâques pour nous pencher tout spécialement sur ce passage, ce qui nous amène à sauter à pieds joints du chapitre 4, où nous en étions restés, au chapitre 15. Mais voilà, c'est bien de rester à la fois dans les Corinthiens et de nous pencher sur ce sujet de la résurrection. Alors, quand même quelques éléments de contexte pour rappel, parce que ça aussi son importance. Paul écrit à une église qu'il a lui-même fondée, à Corinthe, mais qui le déçoit. Les membres de cette église ne progressent pas comme ils le devraient en termes de maturité spirituelle. Ils ont fâcheusement laissé se développer dans leur communauté un esprit de rivalité basé sur l'appartenance à des écoles de pensée, chacun se réclamant de tel ou tel apôtre, dont Paul lui-même. Et puis nous avons vu que aussi l'idée d'un Christ humble et crucifié ne faisait pas tellement recette auprès des Corinthiens, dans leur culture grecque qui valorisait au contraire les démonstrations de force, de persuasion. Et d'ailleurs, Paul étant arrivé à Corinthe dans un grand état de faiblesse, en a lui-même fait les frais. Plusieurs pointaient sa fragilité, son manque d'éloquence, sans discerner la puissance de Dieu transcendant son ministère. Et comme si ça ne suffisait pas, ça on ne l'a pas encore vu, mais on va le voir dans les chapitres qui viennent dans les semaines et les mois à venir, entre les chapitres 4 et 15, Paul relève toutes sortes de désordres qui plombent la bonne marche de cette Église. Mais donc, dans ce contexte, sautons à pieds joints au chapitre 15 et lisons donc les 11 premiers versets de ce chapitre qui sont affichés ici, c'est très bien. Les 11 premiers versets de 1 Corinthiens 15.
Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé.
C'est bon, ça marche.
Que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés, si vous retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à un enfant né après terme. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois, et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru.
Voilà le premier point de son exposé, ce long chapitre sur la résurrection. Christ est vraiment ressuscité. On l'a déjà beaucoup dit ce matin, mais c'est encore ce que Paul nous dit ici. Alors oui, c'est très facile de proclamer ça le jour de la Pâque, précisément en ce jour où nous fêtons la résurrection de notre Seigneur. Mais qu'en est-il des autres jours? Qu'en est-il au quotidien? Qu'en est-il dans notre témoignage? La résurrection fait-elle partie de notre annonce de l'Évangile, au même titre que sa venue sur la terre, ses miracles, sa mort sur la croix pour nos péchés? Est-ce que nous vivons au quotidien dans la présence d'un Christ ressuscité? Sa victoire sur la mort a-t-elle une incidence peut-être sur notre propre rapport à la mort? Et dans cette introduction, Paul aborde la résurrection comme un fait historique, incontestable. Il renvoie les Corinthiens au témoignage incontestable de Pierre, dont, entre parenthèses, vous vous souvenez, toute une faction se réclame à Corinthe, à son insu bien sûr, et de Jacques, et finalement de tous les apôtres, dont lui-même, à qui le Christ, ressuscité est apparu en dernier sur le chemin de Damas. Et il fait également allusion à un autre événement, alors qui lui n'est pas rapporté dans les évangiles, mais qui apparemment s'est produit, l'apparition du Christ ressuscité à plus de 500 croyants à la fois, dont la plupart sont encore vivants de leur temps, du temps où Paul écrit aux Corinthiens. Et donc, nous sommes là, au moment où Paul écrit ces lignes, à peine plus de 20 ans après les faits de la résurrection de Jésus, et avec des témoins oculaires qui sont encore vivants, témoins oculaires de la résurrection de Jésus, et donc, vu le nombre, beaucoup sont encore vivants, le nombre ne manque pas. 2000 ans plus tard, nous voici, nous croyons en la résurrection, toujours sur la base de ces témoignages, sur la base du rapport des personnes qui ont certifié l'avoir vu vivant après sa mort. Mais si aujourd'hui ça fait partie de notre foi, n'oublions pas que tout commence avec un Christ qui apparaît vivant à une multitude de gens qui le croient mort, et je dirais irrémédiablement mort. Même ceux qui ont du mal à en croire leurs yeux, hein, comme Thomas, certains propres disciples du Seigneur, sont bien obligés de se rendre à l'évidence que Christ est ressuscité. Et l'évangile de Luc nous rapporte par exemple le cas de deux autres disciples, donc des gens qui ont passé du temps avec Jésus, qui ont suivi Jésus, mais qui sont tellement conditionnés par le côté irréversible de la mort qu'ils ne reconnaissent pas. C'est après coup seulement qu'ils réalisent avec qui ils ont fait ce long chemin vers Emmaüs. Et en fait, dans les heures qui suivent la mort de Jésus, qui ont suivi la mort de Jésus, peu de gens de son entourage attendaient sa résurrection. C'est assez marquant parce que, en général, dans ces cas-là, il y a toujours quelqu'un pour dire « moi, j'y ai toujours cru ». Là, manifestement, non. La nouvelle de la résurrection de Jésus arrive sur des disciples en plein doute, désemparés. Les 11 premiers d'entre eux, puisque Judas s'est séparé et est mort, les 11 premiers d'entre eux, les apôtres, donc, la jugent de prime abord absurde. C'est leur première réaction lorsque les deux Marie reviennent du tombeau. Leur première réaction, c'est de dire « c'est absurde ». La résurrection de Jésus les prend tous par surprise. On n'a pas du tout affaire au témoignage d'illuminés qui n'attendaient que ça après à le voir apparaître, peut-être dans la forme d'un nuage, d'une vapeur ou d'une fumée, je ne sais pas, quelque chose de transcendant avec lequel ils se seraient un peu monté la tête. Non, ceux qui ont été témoins de la résurrection avaient du mal à y croire. Ils ont dû faire un effort sur eux-mêmes. Et en cela, bien sûr, la crédibilité de leur témoignage est renforcée, si besoin en était. Et pour nous aujourd'hui, c'est un peu différent. Il nous est demandé de croire aux témoignages d'hommes et de femmes qui ont vécu il y a 2000 ans et qu'aujourd'hui on ne peut plus consulter, contrairement à ces personnes auxquelles Paul renvoie, avec peut-être l'arrière-pensée ou en tout cas l'interpellation non implicite. Si vous voulez savoir, allez leur demander. En quoi et alors hein, bon, ça fait 2000 ans, mais en quoi leur mort et de ces témoins et les siècles affaibliraient-ils leur témoignage? objectivement, pourquoi serait-il moins crédible, juste parce que ça remonte à des temps reculés? La vraie question, c'est en fait, si ces choses arrivaient aujourd'hui, est-ce que j'y croirais plus facilement? Si aujourd'hui, dimanche, quelqu'un m'annonçait avoir vu ce matin un Christ mort vendredi soir, ressuscité, est-ce que j'y croirais? Parce qu'en fait, même de son temps, même du temps de Jésus, beaucoup de ceux qui... beaucoup n'ont pas cru ceux qui l'ont vu, les témoins de la résurrection. Mais à l'inverse, beaucoup ne l'ont pas vu et ont néanmoins cru. Et ils accomplissaient ainsi ce qu'il avait prophétisé. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et nous, ici, nous accomplissons aujourd'hui cette prophétie, année après année, siècle après siècle, nous qui croyons en un Christ, en Jésus-Christ ressuscité. C'était donc le premier point de la démonstration de Paul sur la résurrection. Continuons la lecture jusqu'au verset 19.
Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ, lui non plus, n'est pas revenu à la vie. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes.
Il semble qu'il y avait, parmi les membres de l'Église de Corinthe, des personnes qui ne croyaient pas, voire qui contestaient que Jésus soit réellement ressuscité. Et au fond, peut-être pas très étonnant, hein, si déjà l'idée d'un Christ crucifié révulse, et c'est ce que Paul a constaté parmi les Corinthiens, alors nier sa résurrection n'est qu'un pas de plus dans la logique. Ne pas mourir est le meilleur moyen de ne pas avoir à ressusciter. Alors, je n'ai pas trouvé la... Je voudrais citer C.S. Lewis. Je n'ai malheureusement pas retrouvé la citation exacte, mais il a dit quelque chose qui ressemble à ça, ou écrit quelque chose qui ressemble à ça. Tout le monde est chrétien à Noël, mais c'est à Pâques que chacun voit réellement là où il en est au niveau de sa foi. Et c'est vrai, Noël... une naissance, les anges dans nos campagnes, hein, les mages, et tout ça, hein, c'est très beau. Enfin, du moins si on fait abstraction des conditions dans lesquelles la naissance de Jésus est intervenue. Mais Pâques, c'est la mise à mort d'un innocent. Pâques, c'est la trahison, le reniement, l'abandon, fuite. Pâques, c'est le complot, c'est crucifie-le, les cris, la lâcheté du pouvoir. Pâques, ça nous met face à nous-mêmes. Pâques, c'est être rattrapé par la triste réalité de nos péchés et de notre condition humaine. Il serait bien étonnant qu'il n'y ait pas au moins un point dans la liste que je viens d'énumérer, à laquelle nous nous soyons confrontés. Pâques, c'est le désarroi des disciples qui n'y comprennent plus rien, qui se demandent en quoi et en qui ils ont cru. Et Pâques, c'est aussi un défi de foi, parce que croire au miracle de Jésus, de son vivant, oui, c'est une chose. Croire même qu'il ait pu aller jusqu'à ressusciter des morts de la part de son action personnelle, admettons. Mais à qui allez-vous faire croire qu'un mort se ressuscite lui-même? À qui allez-vous faire croire qu'un homme se relève de sa propre mort? Eh bien, Paul est en train de démontrer aux Corinthiens que s'ils ne croient pas en la résurrection de Jésus, alors tout ce en quoi ils croient au sujet de Jésus ne pèse pas grand-chose. Ils peuvent croire en tout le reste, le sacrifice de Jésus, la rédemption, la grâce, le salut par la foi, et tout le toutim, sa résurrection. Si la résurrection n'est qu'une option, alors leur credo devient incohérent, tout se casse la figure. La résurrection de Jésus, c'est le point d'orgue de son œuvre de salut pour les hommes. C'est par sa résurrection que nous savons qu'il était le Fils de Dieu. Et par la suite, d'ailleurs, d'autres que lui ont ressuscité des morts, on le voit dans les actes, mais aucun humain n'est capable de se relever de sa propre mort. La mort étant la conséquence du péché. Et parce que Jésus est entré dans la mort chargé de nos péchés, sa victoire sur la mort signifie, sur sa propre mort, signifie qu'enfin nous sommes délivrés de notre condamnation. Si la mort de Jésus était un contrat d'assurance vie, sa résurrection serait la garantie que la compagnie est solvable. Si nous croyons en Jésus par la foi et pour notre salut, et c'est bien ce que nous proclamons en tant que chrétiens, alors ça implique que sa résurrection fasse partie intégrante du processus de salut. Et Paul s'indigne en quelque sorte de ce qu'on trouve parmi ces croyants, des personnes qui ne croient pas en la résurrection. Mais je voudrais relever un point, parce que d'après notre texte, il semble que les Corinthiens ne nient pas explicitement la résurrection de Jésus. En fait, et c'est ce que nous dit le verset 12, on peut revenir ici. Alors, apparemment, je n'ai pas la main, donc merci. C'est ce que nous dit le verset 12. Plusieurs parmi eux nient la résurrection des morts en tant que telle, et donc notre propre résurrection à venir. Et là, moi, j'entends les propos. Hein. Vous vous rendez compte, si tous les croyants ressuscitent, les problèmes que ça va poser. La terre n'est pas assez grande pour tous les recevoir. On va manquer de ressources. Et tous ceux dont le corps a été réduit en cendres, dispersé, mangé par les bêtes sauvages, atomisé à Hiroshima, dans quel état vont-ils retrouver leur corps? À quel âge? Hommes, femmes? On trouve la réponse à ces préoccupations un peu plus loin dans le chapitre. Mais une fois de plus, nous voilà confrontés à nous-mêmes. Ou plutôt, en quoi, en qui croyons-nous? En quel Dieu? Croyons-nous vraiment en un Dieu tout-puissant? Est-ce que nous le recevons avec tout ce que ça implique de dépassement de nos pensées et de nos limites? Et je pense que tout ce qui nous attend dans notre corps ressuscité dépasse de très loin nos capacités de compréhension et d'imagination. Mais finalement, comprendre et imaginer ce que nous serons, ce n'est pas ce qui nous est demandé. Par contre, croire que nous ressusciterons avec Jésus, comme lui-même est ressuscité, ça, c'est à notre portée. Et c'est ce qui nous est demandé pour que notre foi soit complète. Je voudrais attirer une attention particulière sur le verset 19 et son écho qu'on n'a pas lu, mais qui se trouve être au verset 32. Alors, comme je tourne un petit peu, comme ça, voilà, parce que j'ai pas. Alexis m'a prévenu qu'il n'y aurait pas de projection là-bas. Donc, pour le lire, je dois me mettre en face. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis toute notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes, nous avons lu. Et puis au verset 32, la fin du verset 32, Paul dit « Si les morts ne ressuscitent pas, alors comme le dit le proverbe, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Paul nous interpelle sur la portée de notre espérance. Jusqu'où notre espérance en Christ porte-t-elle? Et c'est vraiment une question qui peut se décliner dans de nombreux domaines. Alors, bien évidemment, de manière très directe, dans notre façon d'appréhender les promesses de Dieu, hein, si c'est pour les choses terrestres seulement que nous espérons en Christ, alors c'est sûr que nous allons au-devant de grandes désillusions. On sait que ce n'est pas en cette vie que nous atteindrons la perfection, que les tentations prendront fin, que la justice de Dieu triomphera, que le combat spirituel cessera. Mais précisément dans ce combat, dans quelle disposition le menons-nous? Avec quelle valeur? Avec les armes de Dieu ou avec des armes humaines? Et je pense là à Pierre, hein, qui coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre avec une arme, une épée, au motif de s'opposer à l'arrestation de Jésus. Quelle est la part de la gloire de Dieu dans nos motivations? Où est mon but ultime quand je me lance dans un projet, quand je tire des plans sur la comète? Jusqu'où porte mon regard? C'est une interrogation que Paul lance également à ses lecteurs au verset 32. Toujours au verset 32. Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse n'a été... Alors, avec cette parenthèse, on ne va pas parler de la lutte contre les fauves parce que, en fait, c'est une image. Hein. A priori, il n'a pas été dans l'arène avec les fauves. Mais voilà. Reprenons ce qui est souligné ici. Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse n'a été inspirée que par des motifs purement humains, alors à quoi cela m'a-t-il servi? Continuons la lecture jusqu'au verset 28.
Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car comme il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare « Tout lui a été soumis », il faut de toute évidence en excepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité de Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi, Dieu sera tout en tous.
Si la résurrection de Jésus atteste de sa victoire sur le péché et sur la mort, elle n'est pas une fin en soi. Elle est même le début, les prémices, les premiers fruits de la moisson, c'est ce qui nous est dit ici, c'est-à-dire de la résurrection des croyants. Tous meurent en Adam et tous revivent en Christ. Christ est le premier ressuscité d'entre les morts, bien sûr le plus glorieux, mais puisqu'il est le premier, ça veut dire qu'il y en aura d'autres et ça veut dire que c'est nous qui serons les ressuscités qui viendront ensuite. Et donc ce n'est pas la fin. C'est seulement quand nous aurons tous ressuscité, quand Christ aura soumis toute puissance hostile, et bien sûr on parle du diable, et quand le dernier ennemi, la mort elle-même, aura été anéanti, quand Christ aura tout remis à Dieu, au Père, à Dieu le Père, alors seulement ce sera la fin. Et je pense qu'on peut voir dans ce mot la fin, la notion de finalité, le but ultime sera atteint, les croyants seront sauvés de leurs péchés, ressuscités à une vie nouvelle où la mort ne sera plus. Alors vous l'avez sans doute constaté au cours de la lecture, le passage se complexifie et se complexifie de plus en plus au fur et à mesure du déroulé. Il reste encore beaucoup de versets à lire que nous n'aurons pas le temps de voir maintenant. Et je vais donc extraire certains passages, certains versets clés pour terminer cette réflexion sur la résurrection. Pardon. Verset 35. Mais demandera peut-être quelqu'un, comment les morts ressusciteront-ils ? Avec quel corps reviendront-ils ? Ah bah ouais, tiens, bonne question. Hein ? On s'est posé la question tout à l'heure. Et donc on va lire encore les versets 36 à 44.
Insensé que vous êtes, dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair, les animaux en ont une autre, les oiseaux une autre encore, une autre aussi les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'entre eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune, et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit.
La résurrection que Paul annonce n'est pas la réanimation d'un corps ayant existé, mais la création d'un corps nouveau, un don de Dieu. Et l'analogie de la graine permet à Paul de dire qu'il existe une rupture indiscutable entre la graine qui a été semée et la nouvelle plante qui apparaît. Mais en même temps, une continuité, puisque chaque graine donne un type de plante qui lui est propre. De même, à la résurrection, ce n'est pas le même corps qui renaîtra, mais c'est la même personne qui revivra, avec un corps différent. Et donc, on peut déduire de cette liste d'analogies trois choses importantes, à savoir très, très concrètes et très pratiques pour nous. Premièrement, c'est que la puissance de Dieu est capable de donner un corps radicalement différent de notre corps actuel, un corps adapté à la vie du royaume de Dieu. Néanmoins, deuxième chose, c'est qu'à la résurrection, c'est bien d'un corps dont nous disposerons. Nous ne serons pas de simples, de purs esprits. Et la troisième chose, c'est que chacun recevra un corps qui lui sera propre, distinct des autres. Chacun gardera une identité, une existence personnelle. Et peut-être reconnaissons-nous là, dans cette description, le corps de Jésus après sa résurrection, un corps matériel qu'on peut toucher, donc pas un pur esprit, encore moins un hologramme, mais doté de propriétés surnaturelles, puisqu'il apparaît et disparaît soudainement, ça et là, même quand les portes sont fermées. Et propre à sa personne, bien sûr, en témoigne la trace des clous dans ses mains et de la lance dans son côté. Je voudrais encore attirer votre attention sur un autre verset qui résume toute la pensée de Paul à propos de la résurrection. C'est le verset 50. C'est super, ça suit là, au niveau de la régie, c'est formidable. Je ne vais pas m'occuper de la zapette. Merci beaucoup. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Et cette déclaration résume tout ce que Paul a exposé dans les lignes qui précèdent. Elle confirme la nécessité d'une transformation finale sans laquelle il n'y a pas d'espérance devant la mort. Le corps matériel dont l'homme avait été doté était bon parce que c'est Dieu qui l'avait créé, mais il a été corrompu irrémédiablement par le péché d'une manière incompatible avec le royaume de Dieu. Et c'est donc par une création nouvelle que les croyants disposeront d'un corps nouveau et incorruptible à l'image de celui du Christ ressuscité que nous fêtons aujourd'hui. Alors il est temps de résumer ce que nous venons de dire, et pour ça je m'appuie sur l'excellent plan du chapitre que nous propose Robert Somerville dans son commentaire sur les Corinthiens. Premièrement, le Christ est vraiment ressuscité. Et ceci, donc, c'est le plan du chapitre dans le sens où, si vous voulez, ça reprend l'ordre chronologique des passages. Premièrement, Christ est vraiment ressuscité. Deuxièmement, si Christ n'est pas ressuscité, la foi chrétienne est vide. Troisièmement, le Christ ressuscité est les prémices de la résurrection des croyants, le premier fruit de la moisson. Quatrièmement, la résurrection des morts est logiquement concevable. Et enfin, la partie que nous avons jusqu'à présent laissée de côté, la victoire sur la mort. Et je vous propose, alors bien sûr, je vous invite à peut-être à relire ce chapitre, en particulier les versets que nous n'avons pas lus. Toute la fin du chapitre s'attache à démontrer la victoire de Jésus sur la mort. Et pour conclure, je vous invite à considérer les deux derniers versets du chapitre, les versets 57 et 58. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Verset 57, c'est une affirmation et bien sûr un encouragement. Dieu nous donne la victoire. Et le verset 58 est une recommandation, une exhortation. La peine que vous vous donnez fait référence au fait que la vie chrétienne peut parfois être difficile. On l'a évoqué la semaine dernière et encore ce matin. C'est difficile pour beaucoup d'entre nous en ce moment. Difficile, mais pas inutile. C'est ça qui est dit ici. Difficile, mais pas inutile. Malgré les apparences, Dieu poursuit en nous et à travers nous un but qui nous dépasse largement. Pour notre résurrection, Dieu nous prépare à la résurrection. Dieu nous répare. Prions. Seigneur, ton corps glorifié, c'est pour nous les prémices de ce vers quoi nous allons, ce à quoi tu nous destines, ce que tu feras de nous dans ton royaume lorsque, avec toi, nous ressusciterons. Sois avec nous, Seigneur, à chaque instant. Rappelle-nous à chaque instant ce but vers lequel nous tendons. Donne-nous la foi de croire, bien sûr, en ta résurrection, mais en notre résurrection avec toi dans les derniers jours. Amen. Relisons ces deux versets pour terminer ce culte, ces versets de conclusion. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Amen.